Interview.
2 jours.
Bonjour, ici R du Bois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc en Diois. L'émission est mise en écoute sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, comme invité, nous recevons monsieur Michel Raskin. Bonjour.
Bonjour.
Michel Raskin, vous êtes comédien, metteur en scène, principalement, que ce soit dans le domaine du théâtre et aussi du cinéma, parfois. Et
puis, parfois.
Vous êtes ici pour nous parler d'un spectacle que vous avez mis en scène et qui s'intitule « Ce que j'appelle oubli » dans le cadre du festival Friction du Réel, organisé par le Théâtre Les Airs. Alors, un oubli, pour vous, c'est quand même un abîme, quelque part.
Alors, l'oubli, c'est quelque chose qui me convient très bien, ce qui concerne le théâtre, qui est mon métier principal. Vous êtes gentil de souligner que j'ai fait un peu de cinéma. C'est vrai que j'ai traversé des films, souvent des chouettes films. Enfin, je suis là comme une sorte de météore, moi, dans le cinéma français. Dans le théâtre, j'ai un peu pris ma place, on va dire. Et c'est ma vie. C'est la région de ma vie, le pays de ma vie. Et l'oubli, c'est marrant que vous me posiez tout de suite la question, indépendamment du texte sublime de Laurent Mouvignier. C'est un métier de l'oubli, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le théâtre, parce que ça se joue, il y a ici et maintenant, quoi. Le vrai moment extraordinaire, c'est pas seulement le moment de la conception, de la réalisation, des répétitions, qui est très long, hein, qui est toujours très difficile à raconter aux gens qui pratiquent pas le théâtre, c'est des fois sur des années, c'est un peu sans arrêt dans la tête, c'est un peu obsessionnel, mais le vrai grand instant du théâtre, ce qui fait son incroyable originalité, c'est le temps de la représentation. Alors, c'est à la fois donc un temps de l'oubli, parce qu'on oublie tout ce qu'il y a eu avant, et c'est tout de suite et maintenant, et ça se joue entre les gens qui jouent et les gens qui regardent. Mais quand même, il faut bien dire qu'il y a de la transmission. Alors, elle est étrange, la transmission. Maintenant, il y a des moyens modernes de fixer ou de figer les représentations. Moi, je ne suis pas du tout pour. Il y a une mémoire qui se transmet le temps de la durée de vie des gens. Mais c'est quand même très, très, très fugitif.
Alors, le titre « Ce que j'appelle oubli » est inspiré également d'un fait divers. Est-ce qu'il a réellement existé, d'ailleurs ?
Oui.
Il s'agit du meurtre d'une personne à l'intérieur d'un supermarché par un vigile, je crois.
En l'occurrence, dans le texte de Laurent Mouvignier, par 4 vigiles. Oui, Laurent Mouvignier, à l'époque où il a écrit le texte, c'est-à-dire en 2011, le fait divers étant arrivé à Lyon, on peut même le dire, au magasin Carrefour de la Part-Dieu pour leur faire de la pub en 2009. Il a beaucoup frappé les esprits à l'époque. Moi, je vivais déjà à Lyon, je m'en souviens encore. C'est incroyable, cette histoire. Alors, effectivement, le texte de Laurent Mouvignier, qui était déjà un romancier, on va dire très reconnu au moment où il a écrit ça, d'un seul souffle. Il raconte qu'il a été très inspiré, d'une certaine manière. Le texte, en vérité, est extrêmement écrit, extrêmement soigneusement écrit. Mais ça a été fulgurant, dit-il, l'écriture. Et c'est parti, effectivement, d'un fait divers. On n'ose pas dire d'une épouvantable banalité. Ça s'appelle, avec ce mot que je déteste, donc je ne sais pas comment l'utiliser, une bavure. Ce mot incroyable pour parler d'une vie humaine, ici ou ailleurs. Effectivement, un jeune homme est rentré dans un supermarché à... En tout cas, ça, c'est la fiction de Laurent Mouvignier. Avait soif, s'est servi d'une canette... sans réfléchir, il faut bien le dire, et au bout de l'histoire, il est mort. Il en est mort. Donc, Mouvignier s'empare de ce tout petit fait divers, de cette vie minuscule. J'aime bien ce mot de Pierre Michon qui dit une vie minuscule, et il invente un récit multiple, où on est à la fois à l'intérieur de l'esprit et du corps en train de se dissoudre du jeune homme, mais aussi de ses proches. Il réinvente un monde, on va dire, marginal, les gens qu'il a pu croiser, et il y a un narrateur qui s'adresse au frère imaginaire de la victime. Donc il y a une sorte de kaléidoscope d'intervention, de moments où... Je trouve qu'entre autres, ça raconte merveilleusement, en dehors de l'horreur descriptive du fait divers, ça raconte très bien un corps en train de se dissoudre, quoi, de disparaître.
Cet événement, ou ce fait divers du moins, s'est produit en décembre 2009. Oui. Vous-même, donc, à l'époque, vous aviez été sensible à ce fait divers.
Oui, comme tous les gens qui étaient à Lyon. Oui, oui.
Et aussi, qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui, en 2023 ou 2022, je ne sais pas à quelle époque a été créée cette pièce, à s'intéresser à cette histoire? Est-ce que vous voulez, est-ce qu'il y a des événements d'aujourd'hui qui vous ont incité à revoir ce fait divers?
Alors, très franchement, non, ce n'est pas les événements qui ont pu me pousser vers le texte. Il se trouve que quand j'ai lu le texte, ça je vais vous en parler dans deux secondes un peu plus précisément, que j'ai adoré ce texte et que j'ai eu envie de le mettre en scène, ce qui avait été fait avant moi d'ailleurs, parce que c'est un monologue au fond qui se prête très très bien à la mise en espace ou à la mise en scène. C'est avant tout l'œuvre littéraire, presque, je l'avoue, presque plus que le sujet qui m'a donné envie de faire du théâtre avec. Cela dit, il va de soi que ce qui est raconté là-dedans rejoint chaque seconde ce qu'on vit aujourd'hui dans une société, on va dire, française, mais aussi européenne, voire mondiale, de souffrance, d'exaction, donc on est très frappé par, entre guillemets, l'actualité du texte. Mais alors, malheureusement, des gens qui se font tuer pour rien, c'est une atroce actualité. En ce qui me concerne, pour remonter à la genèse du texte qui a été créé il y a à peu près un an au Théâtre des Célestins à Lyon, je cherchais un texte pour un acteur que vous allez voir ce soir et demain au Théâtre des Airs, qui s'appelle Thomas Rortet, avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui j'aime beaucoup travailler. Je voulais retravailler avec lui, mais je n'avais pas envie d'un monologue. Et ça, c'est les hasards de la vie. C'est comme la rencontre avec ce texte, elle est complètement due au hasard. Je n'avais jamais lu de roman ni de texte de Mauvigné, qui est pourtant un auteur célébré et d'ailleurs très aimé de ses lecteurs. Bon, depuis, je me suis rattrapé et je suis devenu un lecteur fan des romans de Laurent Mauvigné. Mais je voulais faire travailler donc ce fameux Thomas Rortet et un jeune percussionniste que j'avais rencontré dans mes activités, on va dire, pour aller vite, pédagogique, au Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon. Je trouvais ce type épatant et je me suis dit, ah, ça serait formidable de faire coïncider, faire travailler ensemble la parole. Alors là, il fallait que je trouve un texte avec une très belle langue. D'abord une très belle langue française pour ne pas avoir affronté les problèmes de traduction, mais surtout une langue suffisamment costaud pour être à la fois autonome puis résister à l'intrusion, on va dire, de la percussion, pour rythmer comme ça ce long chemin vers la mort. J'avais mes deux interprètes, c'est très paradoxal, et je suis parti d'eux pour faire le spectacle et pas d'un texte. Et quand le texte m'est tombé entre les mains par hasard, bon, j'étais dans un jury d'école de théâtre et c'est un texte qui a été proposé aux candidats. J'ai un coup de foudre pour le texte. Voilà, je sais que c'est une expression qu'on emploie beaucoup. Il y a eu vraiment un coup de foudre. Je me suis dit, ah oui, alors c'est donc le texte que j'attendais. Et l'occasion a fait le larron. Il se trouve que c'était un bon texte.
Le texte de Laurent Mauvigné, ce que j'appelle Oubli, c'est le même titre que
oui,
le livre.
Oui, oui. Alors, je ne sais pas comment j'aurais pu changer le titre. Oui, oui, c'est le même titre.
Et c'était à savoir, il a fallu adapter ce texte qui est un roman initialement, en dialogue plutôt aussi pour une représentation théâtrale.
Alors ça, c'est une vraie super question que vous posez parce que je ne pense vraiment pas qu'il s'agit d'une adaptation. Je pense que vraiment il s'agit d'une mise en scène d'un texte non théâtral. Il ne va pas de soi, ça n'est pas écrit pour la scène, mais Laurent Mauvigné a toujours été tenté ou flirte vraiment avec le théâtre. Il écrit maintenant d'ailleurs des pièces dites pièces de théâtre directement pour la scène, mais on a une forte envie quand on lit texte, évidemment, puisqu'il s'agit d'un monologue, de le porter à la scène. Donc il ne s'agit pas d'adaptation, d'autant que cette phrase, quand on la lit, si jamais vous reprenez le texte, c'est merveilleux à lire, franchement, c'est écrit d'un seul souffle, quoi. Il y a très peu de ponctuation, il y a des virgules, ça part au milieu d'une phrase et ça s'arrête au milieu d'une phrase, c'est comme un souffle. Alors, il y a un vrai culot de notre part, ou des gens de théâtre qui montent ce texte, à vouloir le restituer à la scène, parce que est-ce qu'on laisse le texte comme, disons, une version radiophonique, où la voix s'écoule dans le micro, alors à condition que l'acteur soit merveilleux, ou bien est-ce qu'on fait entrer le théâtre, c'est-à-dire des images, des scansions, des ruptures, des séquences? C'est un peu ce que j'ai fait avec mes interprètes, mais en aucun cas, le texte est dans son intégralité, peut-être à deux mots près, peut-être trois, mais pas plus. Et il se déroule dans la chronologie, sans aucune coupe, et d'un souffle, quoi. 1h10 de douleur et en même temps du tragicomique d'une vie qui se dissout.
Le texte monologue du livre, ne serait-ce pas une pensée plutôt, ou des pensées ça s'opère dans un silence en réalité. Et de là, de cette pensée à la passer en parole.
Alors là vous...
C'est un travail qui vous a intéressé
Bien sûr, mais j'ai envie de dire, c'est pratiquement cet exemple, et la façon dont vous le racontez d'ailleurs est une formidable définition de ce qu'est le théâtre. Le théâtre, au fond, c'est la représentation physique, corporelle pour le coup. Alors évidemment, il peut y avoir des tentatives artistiques radicales, mais ce qui peut définir le théâtre, c'est des corps de spectateurs et de spectatrices en face de corps d'acteurs et d'actrices. C'est une confrontation physique, au fond. Et à partir du moment où le corps, comment dire, infuse les mots de l'auteur ou de l'autrice et les expulse, il y a théâtre. Donc, au fond, c'est pas différent d'un autre texte. Simplement, il est d'une nature différente parce que c'est un monologue et non pas un dialogue comme souvent au théâtre. Mais au fond, on a des mots, oui, des pensées, certes, en tout cas une pensée qui chemine. Et notre travail d'artiste de théâtre, c'est de rendre concret quelque chose qui pourrait être... Et d'imposer d'ailleurs une lecture, parce qu'au fond le privilège du lecteur sur le spectateur de théâtre, c'est que le lecteur de livres, il est autonome, il fait ce qu'il veut, il est le roi du temps, il maîtrise le temps, il choisit de s'arrêter ou de continuer ou de pas éteindre sa lumière la nuit c'est le lecteur qui décide de la durée. Au théâtre, c'est l'équipe artistique qui décide de la durée.
Alors pour ça, sur la scène, il y a deux personnes. L'un qui est Thomas Horté, qui est en quelque sorte celui qui lâche ce monologue au public, et accompagné ensuite de Louis Daumalin, qui lui est en charge des percussions.
Oui.
Uniquement.
Pas uniquement.
D'accord.
Venez voir le spectacle.
Okay. Oui, je veux bien je comprends que vous ne puissiez pas dévoiler...
Non, je peux en dire plus.
Quelque nature.
D'abord, il y en a un qui est comédien et l'autre dont le métier est musicien. Donc, on aurait pu s'amuser, entre guillemets, à répartir, j'aime pas ce mot, la parole en deux, mais il va de soi que... C'est un art d'être comédien, et que Louis peut-être ne possède pas tous les atouts. On ne s'improvise pas comédien du jour au lendemain. Et ce n'était pas mon souhait. Mon souhait, c'était qu'il y avait une parole qui s'écoule et une autre parole, même pas parallèle, qui interfère, qui ponctue, qui souligne. Alors on s'est un peu raconté, les uns et les autres, une sorte de fiction un peu surrajoutée au récit livresque, c'est-à-dire que il y a beaucoup, beaucoup d'allusions aux frères, à la question de la fraternité. Celui qui raconte dans le livre de Mauvigné s'adresse aux frères de la victime. Et donc, et le thème de c'est quoi un frère, c'est quoi un petit frère, c'est quoi un grand frère, c'est qui mon frère que je découvre après sa mort, dont j'ai la charge, il y a le poids de la fraternité, avec ou sans guillemets, qu'on a tous éprouvé les uns et les autres, si nous avons des frères, voire des sœurs. C'est un des thèmes de l'écriture de Laurent Mauvigné. Et ça, j'avais très envie de le mettre en scène avec ces deux garçons qui, vous le verrez, ont le même âge, ont à peu près la même corpulence, ont à peu près la même taille. Il y a un effet de gémellité sur le plateau qui vraiment m'intéressait et qui est proprement théâtral. Alors ça a amené évidemment des images, des ruptures, mais oui, c'est bien Thomas Horté qui prend en charge le texte et Louis Daumalin qui prend en charge appelons ça la musique, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas considérer que le son est de la musique.
Qu'est-ce que vous vouliez signifier justement avec ce second personnage, ce percussionniste, avec ses interférences? À quoi identifiez-vous ce personnage qui a été rajouté par rapport au livre?
Je suis un peu embarrassé de répondre parce qu'en vérité, j'ai les idées moins claires sur ce personnage. En tout cas, j'ai les idées moins claires sur ce que j'avais en tête au moment, on va dire, où j'ai conçu le projet. je voulais avant tout associer deux artistes très différents, qui d'ailleurs ne se connaissaient pas avant, et voir ce qui se passe, fabriquer un duo. C'est très précieux, les duos à la scène. Alors, les duos, on en a des milliers d'exemples en art, notamment en musique ou même dans le divertissement. C'est juste cet art qui n'est plus considéré mineur maintenant, qui est le cirque, où effectivement, depuis la fin des temps, il y a des duos de clowns. C'est toujours une figure intéressante à la scène. On aime bien voir des gens différents. Le cinéma s'en est aussi évidemment beaucoup emparé. Moi, c'était de faire se rencontrer ces deux personnes et de me dire, je maîtrise une partie du projet, mais il y a toujours, évidemment, quand on travaille avec des personnes ou des personnalités, mais surtout des personnes, de l'impondérable, de l'inconnu, de nouveauté, et j'étais sûr qu'il se passerait quelque chose entre eux, de fort que le spectateur ou la spectatrice percevrait. Maintenant, on pourrait dire, pour résumer à l'arrivée l'image que ça produit, c'est comme si le jeune Louis était le double du jeune Thomas, qu'au fond, il pourrait être aussi un narrateur, mais il pourrait être peut-être aussi la victime, et peut-être le frère de la victime, et peut-être un des tortionnaires. C'est des figures masculines, ça fait aucun doute, qui s'affrontent et qui fabriquent de l'intérêt pour celui qui regarde le spectacle.
Autour de ces comédiens, il y a la scène,
oui,
et son décor.
Oui.
Le décor qui est de Stéphanie Mathieu.
Oui.
Comment s'est opérée cette conception de décor ? Un échange entre toute l'équipe ou alors vous avez laissé carte blanche aussi à cette décoratrice ?
Stéphanie Mathieu, je travaille avec elle depuis très longtemps, depuis l'école de théâtre à Lyon qui s'appelle l'ENSAT, qui enseigne le théâtre non seulement aux acteurs, aux actrices, mais dans toutes les sections artisanales du théâtre. C'est une rencontre d'il y a très très longtemps et depuis on a une collaboration suivie, donc on se connaît bien, j'ai envie de dire on se comprend bien, on va vite. Il faut associer aussi dans ce spectacle à Julien Louis-Cran qui a beaucoup d'importance du point de vue de la lumière. Il était évidemment... Alors, il va sans dire que dans le texte de Movigny, il n'y a pas l'ombre d'une indication de où ça se passe. On est dans la littérature et une voix sort des pages. Donc au théâtre, se pose assez vite la question de où ça se passe, dans quoi, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas, qu'est-ce qu'on a envie de montrer. J'ai envie de dire, il s'est imposé comme une évidence qu'un décor réaliste qui pourrait représenter d'ailleurs quoi, un supermarché, était très malvenu. On est presque... C'est compliqué. Au fond, ça se passe dans les têtes. Ça se passe dans la tête de tous ces personnages que je vous ai décrits précédemment, mais essentiellement dans la tête de la victime, qui d'ailleurs, dans le livre, et à plus forte raison dans le spectacle, n'a pas de nom. Une sorte d'anonyme qui... meurt connement, jeune homme, au détour d'une journée de sa vie. Donc, comment représenter un espace mental ? On ne peut pas représenter un espace mental au théâtre, parce qu'au théâtre, il n'y a rien de mental, tout est concret. À partir du moment où on met une chaise sur un plateau de théâtre, c'est un décor, puisqu'on a choisi de ne pas mettre autre chose qu'une chaise. Donc, très vite, on a eu l'idée, puisque le début de la tragédie, c'est vraiment la canette. Mais qu'est-ce qui lui est passé au moment où sa main s'est tendue sans réfléchir vers une canette ? Et je me suis dit, avec Stéphanie Mathieu, donc notre scénographe, rien d'autre qu'une canette. Une canette monstrueuse. On connaît bien, elle est dans notre univers, la canette de bière. Et tout d'un coup, elle devient un instrument de mort. Alors je me suis dit, on va réfléchir à partir de ça. Donc il y a bien une canette, on est parti de là. Et puis, quand même au théâtre, comment fait-on quand on n'a pas de rideau ? Donc on a inventé une sorte de portail, portique mouvant qui peut être à la fois le sas monstrueux que nous connaissons tous dans les supermarchés, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe derrière ces lamelles de plastique ? Évidemment, tout un monde. Nous savons tous qu'il y a des stocks, mais il y a aussi des vigiles. Donc il y a un monde mystérieux de l'autre côté, effrayant, inconnu, et là qui apporte la mort. Donc ça raconte de façon extrêmement simple et symbolique peut-être l'univers de la mort, mais après, on travaille au théâtre avec des murs nus et des lumières. Et les lumières peuvent faire office de décor.
À l'initial, dans le texte, donc, l'action se passe dans un supermarché. Vous, ensuite, par rapport à vos propos, indiquez que vous vous êtes détaché de ce type de lieu. Est-ce que cette situation, cette scène, cette mise en scène peut être transposée à n'importe quel endroit ?
Dans la vie, je pense que oui.
Aujourd'hui, de nos jours.
Oui, de nos jours.
Moi, ça me fait penser, par exemple, à cette péripétie du Covid, où beaucoup de personnes ont été violentées durant certaines nuits dans les rues désertes.
Alors, ça, c'est pas le sujet principal. C'est pas.
Alors, je précise, ce sont des vidéos qui montraient des policiers tabasser des gens qui avaient décidé de sortir malgré l'interdiction.
Alors, comment dire, ça n'est pas au moment de l'écriture de Mauvigné et puis de ce que j'en lis de ses déclarations, mais surtout de son œuvre, c'est-à-dire le livre Ce que j'appelle oubli, ce n'est pas le sujet principal ou sa préoccupation principale au moment où il écrit. Je pense que c'est un auteur dont j'ai lu presque tous les livres maintenant, qui est extrêmement concerné, sans guillemets, par le monde autour de lui et la société française autour de lui. Il raconte ça sans relâche depuis qu'il a commencé en littérature il y a plusieurs décennies. Mais ça n'est pas le sujet vraiment de son récit. Je crois que son idée, c'est de raconter les fragments de conscience, les fragments de souvenirs, les fragments de réminiscence et de douleur ou de joie qui adviennent au moment où l'esprit quitte le corps. C'est très étonnant. C'est très étonnant, vous verrez quand on assiste au spectacle. Maintenant, que ce texte-là rejoigne des situations de violence dans la société, en tout cas l'anneau de la société française, sans extrapoler autour de nous en Europe ou dans le monde entier. Mais par exemple, il se trouve que, je vous en parlais au début de notre entretien, quand j'étais jury à l'école de Saint-Étienne et qu'on a proposé ce texte aux élèves pour en faire un exercice de concours, c'était pile pendant la tragédie autour de George Floyd. Alors ce texte, au moment de la mort de George Floyd et de nous, notre vision en direct et en longueur, parce que vraiment, le film de la mort, il dure. Hein. C'était presque un problème, parce que du coup, le texte n'était lu que au filtre de l'actualité. Et donc, ça le réduisait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire aussi que l'actualité, c'est-à-dire cette violence absolument insupportable, injustifiée, qui amène à la mort d'un homme, trouvait un écho faramineux dans une œuvre littéraire. Donc c'est vraiment génial. Mais oui, je pense que le texte, il fait écho à toutes les violences du monde. En particulier, il résonne avec les violences sociétales. Ça fait aucun doute.
Thomas Raorté, pendant ce spectacle, revêt plusieurs personnalités, ou du moins les interprète, que ce soit la victime ou peut-être les vigiles, ou je ne
oui
sais
non.
quel autre
C'est-à-dire
personnage.
C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de transformation physique, il y a à peine des variations vocales. Il a sur le dos, ce jeune acteur de 30 ans, une responsabilité faramineuse, parce qu'il rentre et il sait qu'il va parler, bouger, agir, mais surtout être le transmetteur des mots de l'auteur, de Laurent Mauvigné, pendant 1h10. Donc, il doit être un acteur, ce qu'il est, un acteur calme, un acteur mature, car effectivement, sans qu'il n'y ait de transformation physique, il endosse un nombre incroyable de personnages. C'est ça, même la définition d'un narrateur. Il y a quelque chose du journaliste là-dedans, il y a quelque chose du récitant, il y a quelque chose du coryphée de la tragédie antique, mais le théâtre contemporain nous a habitués à ces... Maintenant, le public est assez, c'est bien géré ça, les ruptures d'humeur, de temps, de jeu, mais c'est pris en charge par un seul acteur et son complice et son double aux percussions.
Vous avez travaillé avec Laurent Mauvignier pour cette conception en théâtre ? Non, pas du tout.
Pas du tout.
Mais du moins, avez-vous échangé peut-être ? Comment appréhender ou comment formuler la personnalité et la psychologie de ces personnages ? Comment ont-ils été élaborés par l'auteur ? Est-ce que vous en avez aussi pris compte et amené aussi de votre connaissance ?
Alors ça, c'est une super question. Et je pense que tous les metteurs en scène ou metteuses en scène vous répondront de façon différente. Moi, depuis très longtemps, j'ai dans mon histoire de metteur en scène mis en scène essentiellement des textes contemporains et parfois des textes contemporains d'auteurs vivants. Donc, et des textes inédits. J'ai beaucoup aimé cette expérience. En l'occurrence, ce texte n'est pas inédit puisqu'il a déjà été monté avant nous. J'aimais toujours beaucoup, avec mon équipe, déchiffrer des univers, des terres vierges, quoi. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était l'idée que si j'avais eu envie ou si j'avais eu besoin de consulter ou de dialoguer avec les auteurs, c'était très facile de le faire. Il suffisait de décrocher le téléphone. C'est ça la différence entre un auteur contemporain et un auteur moderne. L'auteur contemporain, il est contemporain. On peut lui écrire, on peut lui téléphoner. Mais j'avoue que pendant toutes ces années, je ne l'ai pas vraiment fait, ça. J'ai pas eu... Alors après, je les ai rencontrés, mes auteurs ou mes autrices chéries. Mais la plupart du temps, après. J'ai toujours pensé, ça c'est ma thèse à moi, donc pas forcément la thèse de mes collègues. J'ai toujours pensé qu'il fallait tirer l'invention, l'inspiration, pour utiliser un grand mot, des mots eux-mêmes, de la matière textuelle elle-même, et de faire son travail, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, de se mettre tous d'accord sur le sens, de fabriquer mes images à moi et de transcrire scéniquement ou de transmettre. Mais c'est vrai que j'ai jamais cherché la collaboration avec mes auteurs ou mes autrices, ce qui était possible. Pour ce qui concerne là, cette expérience, j'ai fait ce qu'on fait d'habitude. J'ai écrit à Mauvignier en disant « Bonjour Monsieur Mauvignier, peut-être vous me connaissez, peut-être pas. J'ai adoré votre texte et je compte le mettre en scène. Qu'en dites-vous » Et très vite, il a dit « Écoutez, allez-y. » Après, il n'était pas... Je pense que... Il est venu voir le spectacle, hein. On s'est rencontrés, c'était un vrai bonheur qu'il vienne. Je crois qu'il nous a fait savoir qu'il a un peu redécouvert le texte, parce que ce texte, c'est une tentation pour les metteurs en scène et les acteurs. On a envie de le jouer. Je crois qu'il faut bien aussi se rendre compte que pour un auteur qui écrit, il n'est plus dans ce passé-là, lui. Je ne parle pas du passé du fait divers, mais du passé de l'écriture. Après tout, on est en 2023, il écrit ça en 2011. Oh, wow, il a écrit des livres depuis, et puis il en écrit d'autres. Donc il est vraiment tourné dans le livre du moment, ou celui qui vient de sortir, ou celui qui va sortir. Donc c'est loin, mais je crois qu'il a eu du plaisir à réentendre le texte, parce que... D'abord, je crois que c'est quelqu'un qui aime le théâtre profondément, qui aime bien le contact avec les artistes de théâtre. C'est un romancier qui fraye beaucoup avec le genre théâtral. Mais je crois qu'il ne souhaitait pas, et d'ailleurs moi non plus, qu'on ait une collaboration.
Voilà, c'est ce que j'appelle oubli, qui sera éclairé par Julien Louis Grand demain, ce soir même, à 20h au Théâtre Les Airs, à Die. Et pour toute réservation, il est souhaitable de téléphoner au 04 26 58 80 35.
Je voudrais préciser une chose. On va jouer demain en matinée pour des scolaires, des grands scolaires. Et le Théâtre Les Airs m'a fait savoir, et j'en suis ravi, que cette représentation n'est pas exclusivement réservée à des jeunes gens et des jeunes filles des lycées, mais que s'il y a des spectateurs que cet horaire phénoménal au théâtre, c'est-à-dire 10h15, intéresse, surtout qu'ils ne se gênent pas pour appeler le théâtre.
Michel Raskin, on peut vous découvrir sur Internet également, ou est-ce que vous n'avez pas une compagnie spécifique
Si, j'ai ma compagnie qui s'appelle Raskin et Compagnie. Voilà, c'est ce qui nous est venu de plus simple à l'esprit. Mais on peut pas me découvrir sur Internet. Je suis pas un roi d'Internet, je suis pas un rat d'Internet. Si on tape sur Internet Raskin, il y a sûrement des trucs, parce qu'il y a des trucs sur tout le monde. Mais il n'y a pas un site dédié à ma personne.
Voilà, je confirme, hein, j'ai cherché un site particulier de votre compagnie. Et effectivement, on peut en trouver quand même suffisamment d'informations. Hein,
mais j'ai une sorte de paresse avec, disons, ma personne et Internet.
Une certaine réticence par rapport au numérique ?
Oui, une certaine réticence, oui. Oui, une certaine réticence. Si on veut me parler, vous avez vu, il n'y a pas de problème, je suis bavard, j'aime bien l'oral, on peut me joindre. Si on me joint, je réponds, mais je n'ai pas envie de passer par le grand discours. La compagnie a un compte Facebook, il y a peu de choses dedans, en tout cas, il n'y a rien de personnel, et je ne donne jamais mon avis sur Internet. C'est un principe. Mais on peut me le demander, vous avez remarqué, quand on me le demande, je le donne.
Eh bien,
vous voulez qu'on finisse là-dessus ?
Oh, ben, de toute façon, on a le temps imparti hein, qui est atteint. Et donc, Michel Raskin, je vous remercie en tout cas d'être venu sur Air d'Ivoire pour nous parler de votre création, ce que j'appelle Oubli.
Merci à vous. Donc, vraiment, c'est merveilleux. Il faut le dire. Je reprends encore la parole 2 secondes pour dire que le temps de parole un peu long sur les radios, c'est exceptionnel. C'est vraiment, c'est génial parce qu'on peut développer, quoi. On n'est pas obligé de parler par slogan. Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Thank you.